prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole ce matin, donne-nous, nous t'en prions, de la recevoir avec le cœur et d'apprendre à te recevoir de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Pour quelqu'un qui lit les évangiles, qui lit la parole de Dieu, c'est une évidence. Pour autant qu'on ne soit pas fermé à cause de la multitude des traditions qui existent et qui bouleversent notre esprit, mais pour celui qui lit les Écritures, c'est évident. Ça saute aux yeux de la première page à la dernière. Le sabbat du septième jour, c'est le jour que Dieu nous demande de mettre à part. C'est une évidence. C'est clair. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous avons la conviction que Dieu nous enseigne à garder le sabbat du septième jour. Mais avec le temps, vous savez, nous avons souvent parfois des idées qui se modifient et nous prenons parfois de mauvaises habitudes. Et je peux imaginer facilement qu'avec le temps, nous ayons développé l'idée que finalement, observer le sabbat, c'est en fait essentiellement garder le bon jour. Nous pouvons en arriver à résumer l'idée que si nous voulons observer le sabbat, il suffit de garder le bon jour, par opposition au mauvais jour, qui n'est pas biblique. Et on peut arriver à cette idée que finalement, à partir du moment où on observe le bon jour, on a observé le sabbat, sans aller chercher plus loin quel est le sens profond du sabbat dans les Écritures. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous les sept dimensions du sabbat. Sept, évidemment. Les sept dimensions du sabbat. Oh, je sais, il y en aurait beaucoup d'autres. Le temps nous manquerait ce matin pour faire le tour de toute la signification profonde et biblique du sabbat. Mais j'en ai sélectionné sept ce matin pour nous apprendre à regarder le sabbat non pas comme étant le bon jour à respecter, ce qui est vrai, mais aller plus loin que respecter le bon jour. Respecter le bon jour de la bonne manière. Alors je vous invite avec moi à regarder dans les Écritures les sept dimensions du sabbat. La première est en rapport avec le sabbat et l'alliance. Dieu a créé le monde en sept étapes, en sept jours. C'est ce que nous rapporte le premier livre de la Genèse. Sept jours pour créer le monde. Maintenant, lorsque nous lisons le texte du récit du déluge, dans le livre de la Genèse, au chapitre 8 et 9, nous découvrons que la deuxième partie du déluge, à partir du moment où les eaux commencent à descendre, le texte qui nous est rapporté là par Moïse est lui aussi structuré en sept parties. Et que les sept parties de cette histoire correspondent en fait aux sept jours de la création. Le dernier jour de la création, le septième jour, c'est le sabbat. Nous l'apprenons dans Genèse chapitre 2. Mais alors, si ce texte du déluge est aussi structuré en sept jours qui correspondent aux sept jours de la création, à quoi correspond donc cette septième étape dans le récit du déluge? Eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse. Il nous est dit dans le livre de la Genèse, et c'est au chapitre 9, au verset 12, il est écrit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. » Et un peu plus loin, il est dit « L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et toute chair qui est sur la terre. » Le septième jour de la création correspond à la septième étape dans le récit du déluge. Et la septième étape dans le récit du déluge, c'est le moment où Dieu place l'arc-en-ciel dans le ciel comme signe de l'alliance qu'il fait avec l'humanité entière, avec toute chair, dit-il. Le parallèle entre le sabbat et l'Alliance paraît donc évident. Le texte de l'Exode, d'ailleurs, le prend aussi, il nous dit dans Exode chapitre 31, nous y reviendrons dans un moment, il est dit au verset 17, en parlant du sabbat, « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Le sabbat, c'est donc le signe, lui aussi, de cette alliance entre Dieu et les hommes. Tout comme l'arc-en-ciel était un renouvellement de cette alliance que Dieu fait avec l'humanité. Vous remarquez que le sabbat, comme l'arc-en-ciel, sont deux signes qui ont directement à voir avec la puissance créatrice de Dieu. C'est le Dieu créateur qui donne ces deux signes. Nul autre ne peut le donner. Ce sabbat, signe de l'alliance, signe du contrat, du pacte fait entre l'homme et Dieu, va durer tout au long de l'histoire. Et la Bible, dans les dernières pages, nous montre que ce signe de l'alliance est encore là. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, se trouve ce passage que nous connaissons bien. Le message du premier ange est extrêmement symptomatique. Il dit, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Dans cette dernière proclamation de l'Évangile éternel au monde, nous sommes invités à craindre Dieu, à lui donner gloire et à adorer celui qui est en fait le Créateur. La Bible nous dit comment nous pouvons adorer le Créateur. Le mode d'emploi de cette adoration est donné, c'est le 4e commandement, c'est le sabbat. Mais un petit peu plus loin dans le même chapitre, vient le message du second ange. Il est dit par exemple au verset 9, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front et sur sa main, la marque de la bête sur le front et sur la main. » Alors aujourd'hui, vous allez entendre toutes sortes d'idées farfelues sur cette marque de la bête. Des élucubrations incroyables. C'est comme si on avait laissé l'imagination aller son libre cours pour donner toutes sortes d'explications fantaisistes à cette idée. Mais c'est dans la Bible qu'il faut chercher la signification de cette marque sur le front, sur la main. La Bible nous en parle clairement. Dans le livre du Deutéronome, il nous est dit ce qu'il en est. Regardez avec moi ce passage dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6. Nous retrouvons là ce passage fondamental où se trouve la profession de foi du croyant. Il est dit au verset 4, cette profession de foi, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Et puis il parle ensuite des commandements. Et à ce sujet-là, il est dit au verset 8, « Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » La main et le front, c'est là que se trouve la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Autrement dit, ceux qui reçoivent la marque de la bête sur la main, sur le front, sont ceux qui n'ont pas la loi de Dieu. Ils ont la loi de la bête. Et puisqu'ils n'ont pas la loi de Dieu, ils n'ont pas le sabbat. Et puisqu'ils n'ont pas le sabbat, ils n'ont pas l'alliance. Et puisqu'ils n'ont pas l'alliance, ils n'ont pas la grâce non plus. Ce signe de l'alliance, il est perpétuel aussi. Dans le sabbat se trouve ce signe extraordinaire de la grâce en Jésus-Christ. Signe de ce pacte dans lequel Dieu s'engage d'une façon directe et personnelle pour sauver les humains qui le veulent et qui l'acceptent. C'est le signe que Dieu a choisi de vouloir sauver les humains à tout prix. Et il l'a donné, il l'a payé ce prix en Jésus-Christ. Ce signe de l'Alliance me rappelle ce moment où Dieu a créé le monde est ce moment où Dieu a recréé le monde après le déluge. Mais il tourne mes regards vers ce moment où Dieu veut recréer un monde où le mal n'est plus, sous aucune de ses formes. Et quand je vois l'arc-en-ciel dans la nuit, quand je pense au jour du sabbat, je pense à ce moment où Dieu va redonner à ses enfants un monde où le mal n'existe plus. Est-ce que nous languissons après ce moment ? Est-ce que nous attendons avec impatience ce moment où enfin nous nous retrouvons à la maison, sans mal, sans péché, sans rien de semblable ? Est-ce que c'est une attente ? Est-ce que nous attendons ce moment où Dieu va agir et restaurer pour toujours ? La deuxième dimension du sabbat est en rapport avec la fin. Quand on y pense, si vous lisez les premiers chapitres du livre de la Genèse, vous vous rendez compte que le sabbat, c'est la première fin dans le livre du commencement. C'est la première chose accomplie, c'est la première chose terminée dans l'histoire du commencement. Dans Genèse, chapitre 2, au moment où il est question du sabbat, il est dit dès le verset 1, « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. » Le sabbat, c'est la première fin, c'est le premier achèvement dans l'histoire du début. Au septième jour, Dieu achève son œuvre. Elle est terminée. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir que lorsque on lit dans l'Exode les chapitres qui concernent la construction du tabernacle, le même vocabulaire est employé pour le tabernacle que pour la création. D'ailleurs, toute la construction du tabernacle va être faite, elle aussi, en 7 étapes. Chacune de ces étapes sera introduite d'une façon particulière par cette phrase « Dieu parla à Moïse et dit ». Chacune des 7 parties qui vont introduire la construction du tabernacle sera introduite de cette manière-là. Mais c'est en fait de cette manière-là que chacune des journées de la création est introduite. Dieu dit, et la chose est arrivée. Chacune de ces étapes de la construction du tabernacle est donc liée directement au récit de la Genèse, au récit de la création. Maintenant, lorsque vous cherchez dans ces 7 étapes à quoi correspond la 7e étape de la construction du tabernacle, là vous avez une surprise. Et je vous invite à la regarder avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Exode, chapitre 31, se trouve être à cet endroit-là la 7e partie dans la construction du tabernacle. Au verset 12, il est dit... Cette phrase que je mentionnais, introduction à chacune de ces parties, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » La 7e partie de la construction du temple correspond exactement à la 7e journée de la création, c'est le sabbat de nouveau. C'est dire à quel point le temple lui-même est lié avec la création. D'ailleurs, le même vocabulaire va s'appliquer à la création, au sabbat et à l'achèvement du sanctuaire. Le même vocabulaire, et pour n'en prendre qu'un exemple, car il y en a plusieurs, je vous propose de tourner quelques pages au chapitre 40 du livre de la Genèse. Au chapitre 39 déjà, si vous voulez bien, au verset 32. Exode 39, verset 32, il est dit « Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. » Verset 43. Dans le même chapitre 39 du livre de l'Exode, il est écrit « Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Est-ce que vous n'entendez pas cette parole de la Genèse où il nous est dit que Dieu regarde la création? Et quand il regarde sa création, il trouve que tout est très bon. Le même langage nous amène à comparer la construction du sanctuaire dans le désert avec la construction du monde dans la création que nous avons dans le livre de la Genèse. Le lien est clair entre ce sanctuaire et la création. Le lien entre le sabbat, le sanctuaire et la création. D'ailleurs, si vous prenez le moment où, dans le chapitre 40, le sanctuaire va être monté pour la première fois, il sera lui aussi monté et installé pour la première fois en 7 étapes bien précises. Le sabbat, c'est donc le jour du sanctuaire. C'est le jour dans lequel nous sommes invités à rencontrer Dieu dans son sanctuaire. C'est exactement ce que Dieu disait lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël en leur disant que le sabbat, c'était le jour de la sainte convocation. C'est le moment où nous sommes invités au sanctuaire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller beaucoup plus loin parce que nous savons que Dieu n'a pas besoin d'habiter entre quatre murs. Il le fait par compassion et grâce envers nous. Mais nous savons aussi que par la foi, nous pouvons avoir accès au sanctuaire céleste. Nous pouvons par la foi nous tourner vers Dieu et participer dans ce moment particulier de communion grâce à l'intercesseur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est dire à quel point le temple et Jésus, c'est en fait une même chose. L'évangéliste Jean, dans son évangile au chapitre 2, nous le dit très clairement. Lorsque Jésus se dispute avec les pharisiens et les chefs de ce peuple à propos du temple, Jean, dans cette discussion, va nous expliquer, lorsque Jésus parle de ce temple, qui est détruit et reconstruit en 3 jours, Jean dit, il parlait de son corps. Le temple, c'est Jésus. Le temple, c'est le Christ lui-même, dans l'accomplissement de cet acte créateur, qu'il a commencé à la création et qu'il veut continuer dans la rédemption. D'ailleurs, Jésus a terminé son œuvre avec le sabbat. Jésus a terminé son œuvre sur la terre un jour de sabbat et il s'est reposé dans le tombeau ce jour-là. Mais avant de mourir, Jésus s'écrit sur la croix et que dit-il ? Tout est accompli dans nos versions. Jésus, en fait, dit : tout est fini, tout est achevé, tout est fait. C'est le même vocabulaire qu'il employait lui-même pour le sabbat, ayant achevé son œuvre de création. C'est le même vocabulaire qui est employé par rapport au sanctuaire. Cette œuvre est achevée, non pas dans le sens de terminer, fin, dans le sens d'accompli totalement, pleinement réalisé, pleinement terminé. Ainsi, le sanctuaire, c'est Jésus lui-même. Et je pense à ce moment où le Seigneur nous donnera la grâce de rentrer dans le sanctuaire céleste. Nous avons parlé de ce sanctuaire. Nous l'avons illustré de 36 manières différentes pour essayer d'en comprendre la richesse. Nous l'avons étudié pour comprendre à quel point toutes ces images sont en fait une expression de ce ministère de Jésus pour sauver l'humanité et nous recréer à son image. Un jour, le Christ nous fera entrer dans le sanctuaire céleste. Tout comme les Juifs qui attendaient avec impatience de pouvoir retourner au temple. Ils se donnaient ce salut l'an prochain à Jérusalem. Est-ce que ce sera l'an prochain que nous serons dans la Jérusalem céleste ? Nous languissons après ce temps où entrant dans le sanctuaire céleste, nous réaliserons enfin l'immensité de ce plan du salut en Jésus-Christ. Le troisième aspect du sabbat est en rapport avec le repos. Le commandement, d'ailleurs, nous dit, dans Exode 20, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Nous sommes donc invités, non seulement à nous reposer, mais à travailler pendant la semaine. Ça fait partie du commandement. Et nous avons 6 jours pour faire tout ce que nous avons à faire. L'invitation est celle-ci, c'est d'arriver au sabbat ayant tout accompli ce que nous avions à faire. On raconte une histoire dans les écoles rabbiniques. Et l'histoire va comme ceci pour illustrer cette nécessité d'accomplir notre œuvre entièrement pour rentrer dans le repos du sabbat. Les rabbins racontent l'histoire suivante. Un juif, un sabbat matin, sort de sa maison et il va à la synagogue. Mais au moment où il sort de sa maison, il passe dans le jardin qui est devant sa maison et en passant, il se rend compte que la barrière de son jardin est abîmée, un barreau a été cassé. Et tout en continuant son chemin, il pense en lui-même et se dit « Oh, quand le sabbat sera fini, je vais réparer cette barrière. » Et les rabbins disent « Justement là, cet homme a péché. » Parce qu'il considère que son œuvre n'est pas achevée et qu'il faudra qu'il la termine après le sabbat. Là, cet homme a péché. Il n'a pas achevé son œuvre. Elle n'est pas terminée même dans son esprit. Et le sabbat avançant, il continue son œuvre dans sa tête. L'idée que le commandement nous donne, c'est d'achever notre œuvre, qu'elle soit complète. L'idée, c'est finalement qu'ayant accompli toute notre œuvre, il n'y a plus rien d'autre à faire que de nous reposer dans le jour du sabbat. Quand le sabbat sera terminé, je ferai ceci, je ferai cela. Dieu nous dit le commandement, c'est reposer. Exode 20, verset 10 dit, « Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Alors la question se pose évidemment, Dieu est-il éreinté, Dieu est-il fatigué, Dieu est-il épuisé après une semaine de création? Est-il tellement fatigué, il n'en peut plus, il faut que Dieu s'arrête au moins un jour pour se reprendre. J'ai du mal à voir les choses de cette manière. Dans la façon dont le sabbat est présenté, dans le livre de la Genèse comme dans le reste des Écritures, le sabbat ce n'est pas le jour où Dieu fatigué va se coucher pour être tranquille, c'est le jour où Dieu se repose de son activité pour être disponible pour l'humanité. Le sabbat c'est le jour où Dieu se rend disponible à l'être humain. Disponible pour une relation spéciale, pour un contact unique, pour un contact personnel. Vous remarquez en lisant le texte de la Genèse que la première bénédiction que Dieu prononce dans toutes les Écritures est destinée à Adam et Ève. La deuxième bénédiction, elle n'est pas sur des choses, elle est sur du temps. La deuxième bénédiction que Dieu accorde dans les Écritures, c'est sur le sabbat. C'est dire à quel point Dieu tient à ce que ce sabbat soit le moment d'une relation particulière avec ceux qu'il a justement bénis. Le sabbat, c'est l'intrusion de Dieu dans notre temps pour être avec nous. C'est Dieu qui intervient dans l'humanité d'une manière spéciale. C'est Dieu qui entre dans notre monde pour être avec nous. Le sabbat, c'est Dieu qui s'est rendu disponible pour être avec moi. C'est Dieu avec moi. C'est Emmanuel. C'est ça le sabbat. Le sabbat, c'est Emmanuel. Le sabbat, c'est Jésus lui-même. Le sabbat, c'est ce moment où finalement, parmi tous les autres, Dieu a béni cette rencontre de l'homme avec son Créateur, de l'homme avec son Sauveur, c'est-à-dire avec son recréateur. Est-ce que le sabbat est pour nous empreint de cet objectif-là? Avons-nous cette intention-là dans le sabbat? En tout cas, c'est celle de Dieu. Et si nous voulons bénéficier de cette bénédiction du repos, nous avons, je crois, tout intérêt à harmoniser nos objectifs avec celui du Seigneur lui-même. D'ailleurs, nous avons à bien des égards transformé le sabbat. Le sabbat, c'est recevoir Jésus lui-même. Le sabbat, c'est recevoir la grâce en Jésus-Christ. Mais dans notre esprit, écoutez-vous parler du sabbat. Écoutez comment nous en parlons ensemble. Nous sommes contents d'arriver au sabbat parce que finalement, cette semaine a été fatigante. Et nous sommes heureux d'avoir enfin un jour de repos. Mais la Bible ne parle pas du sabbat de cette manière-là. Parce que lorsque nous parlons du sabbat de cette manière-là, nous sommes en train de parler du repos que nous avons bien mérité après une semaine de dur travail. Le repos que Dieu nous donne n'est jamais mérité. Pas plus que sa grâce d'ailleurs. Ainsi, le sabbat ne doit jamais être le jour de repos bien mérité après une semaine de gros travaux. Le sabbat est en réalité le premier jour, le jour de grâce que Dieu nous donne en vue de pouvoir travailler après. D'ailleurs, pour Adam, comme pour Ève, le sabbat du septième jour est en réalité leur premier jour de vie. C'est leur premier jour de vie, c'est un jour de repos. Sont-ils fatigués? Pas plus que Dieu. Mais Dieu, dans ce jour-là, veut leur donner sa grâce, sa communion, sa présence, pour pouvoir ensuite œuvrer fort de sa grâce, fort de sa présence. Ainsi, lorsque nous nous réunissons le sabbat, nous ne sommes pas en train de nous reposer de la semaine passée, nous sommes en train de faire le plein pour la semaine suivante. C'est là une dimension du repos qui est tout à fait différente. Nous avons, nous, transformé le sabbat dans quelque chose qui fait partie du salut par les œuvres. J'ai bien mérité mon repos, n'est-ce pas? J'ai travaillé fort cette semaine. Et nous voilà repartis dans le salut par les œuvres, même si nous observons le bon jour. Le Seigneur nous propose d'observer le septième jour, le sabbat, comme ce moment de grâce imméritée et de repos imméritée que Dieu nous donne pour que nous puissions travailler ensuite à sa gloire. La quatrième dimension du sabbat est en rapport avec un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Et il nous est dit au verset 54, vous vous souvenez, c'est dans le contexte de la crucifixion, Luc chapitre 23, il nous est dit au verset 54, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. La préparation du sabbat. Au sein, mes amis, c'est un domaine dans lequel nous avons tous une tâche immense à faire. Dans la Bible, il y a une notion curieuse, mais vraie quand on y pense. En fait, il n'y a qu'un seul jour, si l'on comprend les choses bibliquement parlant. Un seul jour. C'est le sabbat. Il n'y a pas d'autre jour dans les Écritures. Parce que le sabbat est le seul jour qui ait un nom qui lui soit propre. Dans la Bible, ce qui n'a pas de nom n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il n'existe en fait qu'un seul jour. Le sabbat. Souvenez-vous, lorsque le Christ interpelle Moïse au buisson ardent, une préoccupation de Moïse, c'est de savoir qui lui parle. Quel est ton nom? S'il ne connaît pas le nom de celui qui lui a parlé, personne ne lui a parlé. Ce qui n'a pas de nom dans les Écritures n'existe pas. Un seul jour a un nom, le sabbat, et tous les autres jours sont compris et définis en fonction du sabbat. C'est le jour de la préparation. Avant le sabbat. C'est le jour avant le jour de la préparation, avant le sabbat. Ou bien ce sera le premier jour après le sabbat, le deuxième jour après le sabbat. Ils n'ont que des numéros en fonction du sabbat. Un seul jour existe, c'est le sabbat. Tous les autres jours sont en fait convergents, pointent tous vers le sabbat, le seul jour qui existe. Parce que c'est le jour où Dieu est avec l'homme. C'est nous dire à quel point tous les jours de la semaine sont des jours de préparation au sabbat. C'est dire à quel point tous les autres jours, dans notre état d'esprit, devraient aussi converger vers le sabbat. De cette manière-là, nous réalisons à quel point nous avons du travail à faire pour donner au sabbat sa grande dimension, sa dimension telle que Dieu la conçoit. Se préparer au sabbat, c'est donc extrêmement important. Ainsi, si durant toute la semaine, je me suis exposé à la puissance créatrice de Dieu en moi, je serai prêt au sabbat, je serai prêt au repos avec lui. Je vais de cette manière-là reconstruire chaque semaine ce miracle de la création de Dieu. Si je n'ai pas le temps de me préparer au sabbat, eh bien vous réaliserez comme moi que nous n'avons pas le temps de vivre le sabbat non plus. Parce que le sabbat va se trouver de nouveau encombré de tout ce que nous n'avons pas pu faire pour qu'il puisse fonctionner selon le plan de Dieu. Si je n'ai pas le temps de me préparer au sabbat, je n'ai pas le temps de vivre le sabbat. Vous vous souvenez de cette interpellation du prophète Amos qui disait au peuple de Dieu de son temps, « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. » Amos chapitre 4, verset 12 nous rapporte cette interpellation. « Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. » Si le sabbat c'est Jésus, il y a une préparation pour rencontrer le Christ. Et finalement, à cette question, il n'y a que deux réponses possibles. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous relisez le contexte d'ailleurs du prophète Amos dans ce chapitre, il n'y a que deux solutions. Soit la rencontre avec Dieu, c'est le sabbat, soit le jugement. Et c'est ce dont il menace son peuple, qui est incapable de rencontrer Dieu à l'époque où il est. Ainsi, si nous ne sommes pas capables, même en célébrant le bonjour, d'y rencontrer Dieu, c'est le jugement. Le sabbat, c'est la rencontre avec notre Dieu. C'est la préparation, non pas finalement à un moment seulement, mais à plus que ça. Parce qu'en réalité, je pense que la façon dont nous nous préparons au sabbat, à la rencontre avec notre Dieu, peut-être une image, un reflet de la façon dont nous nous préparons à la rencontre de Jésus qui vient bientôt. Et là, nous avons peut-être matière à réfléchir. Est-ce que notre manière de préparer le sabbat ne reflète pas notre manière de nous préparer à la rencontre dont nous parlons tant avec Jésus qui vient bientôt? Les deux ne vont-ils pas ensemble? Nous avons là, sans aucun doute, un travail énorme à faire, une réflexion à faire, de sorte que cette préparation soit une image de notre préparation à la rencontre avec Jésus lui-même. Et là, peut-être, nous pouvons nous comprendre que même en observant le bonjour, nous ne sommes pas nécessairement prêts à la rencontre avec notre Dieu. Le cinquième aspect est en rapport avec la manière dont les commandements sont associés. Le sabbat, c'est le dernier commandement de cette liste de quatre qui régit notre relation avec Dieu, les quatre premiers commandements. Puis vient le cinquième commandement, qui est le premier commandement de cette série de six qui régit nos relations avec les autres. Le sabbat, nous sommes invités à respecter ce jour de repos et de communion avec Dieu, le Créateur. Le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Et une promesse est associée, afin que tes jours se prolongent. Ainsi, le quatrième commandement et le cinquième sont en fait exactement le même. Sauf que l'un nous invite à respecter et à honorer notre Créateur divin, L'autre nous invite à honorer et respecter nos créateurs sur la terre. C'est en fait le même commandement. D'ailleurs, dans le livre du Lévitique au chapitre 19, les deux sont présentés dans un même souffle, comme s'ils allaient ensemble nécessairement. Regardez avec moi dans le livre du Lévitique au chapitre 19, où sont reproduits les commandements de Dieu, et au verset 2, nous trouvons ces deux commandements associés ensemble comme s'ils étaient un seul. Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. Soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. C'est un seul et même commandement. Ils sont là réunis en un. Le respect du Créateur, c'est dire à quel point le sabbat est en rapport avec la famille. Le sabbat est directement lié à la famille. Le sabbat, c'est le jour de la famille. Il existe d'ailleurs une très ancienne tradition, une tradition qui semble remonter jusqu'au deuxième siècle de l'ère chrétienne, selon laquelle lorsque les croyants ouvraient le sabbat, au coucher du soleil le vendredi soir, ils allument deux bougies. Deux bougies, les deux bougies du sabbat. Cette pratique est encore aujourd'hui courante dans les milieux judaïques. Les deux bougies du sabbat. Mais pourquoi deux bougies? Ah, sans aucun doute, pour montrer cette image qui est aussi associée au sabbat, on va sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Parce que Dieu est présent, donc la lumière est là. Mais pourquoi deux bougies? Parce que dans l'esprit de ce temps-là et encore d'aujourd'hui, la bougie, c'est l'élément domestique par excellence. C'est ce qui appartient au foyer, c'est ce qui appartient à la maison. Parce que le début du sabbat, c'est le début dans la famille. Le sabbat se vit dans la famille. Il associe tous les éléments de la famille. Ce n'est pas par hasard que l'Ancien Testament se termine avec cette promesse. Par rapport à Élie, le prophète, qui réapparaîtra à la fin des temps, il nous est dit que son œuvre sera de ramener les enfants vers les pères et les pères vers les enfants. C'est l'œuvre du sabbat, bien compris selon le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle le sabbat fait partie de l'Évangile éternel, proclamé à la fin des temps. Le sabbat, c'est la famille. C'est sans aucun doute la famille terrestre, mais c'est aussi la famille céleste. Si nous regardons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 56, il parle du sabbat et du sabbat destiné aux eunuques et du sabbat destiné aux étrangers. Il est donc bien clair que le sabbat n'est pas destiné simplement aux Juifs de l'Ancien Testament, il est destiné à toute chair. Et en rapport avec l'observation du sabbat, Ésaïe rappelle que le sabbat sera observé par tous ceux qui aiment Dieu et qui veulent le servir. Et cette partie d'Ésaïe 56 se termine au verset 7 par cette phrase « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » La voilà la famille. La famille terrestre que nous sommes, notre père, notre mère, les enfants, la cellule familiale, mais aussi cette cellule familiale qu'est l'Église d'aujourd'hui. Cette maison de prière pour tous les peuples, c'est le foyer. Et c'est la raison pour laquelle le sabbat est en réalité un jour de joie, parce que c'est le jour de la famille. Dans le livre du Lévitique au chapitre 23, il nous est donné là la liste entière des fêtes. Lévitique chapitre 23 nous donne les 7 fêtes bibliques qui étaient données à Moïse. Mais comment commence donc ce chapitre? Lévitique chapitre 23 commence par ces mots. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Le 4e commandement, mes amis, c'est le seul commandement qui nous demande de célébrer une fête. Le 4e commandement, le commandement du sabbat, c'est le commandement de nous réjouir. C'est la seule fête pour laquelle Dieu donne un commandement éternel. Le sabbat, c'est la fête par excellence. Toutes les autres viennent dans la foulée de cette fête-là qui est la fête par excellence parce que c'est la première. La première dans laquelle Dieu rencontre l'homme et le sauve. Le sabbat, c'est la fête par excellence. Et par conséquent, c'est un jour de joie. C'est le jour où il y a tout ce qu'il y a de mieux. Le sabbat n'est pas un jour de jeûne. Ce sont les païens qui jeûnaient dans leur jour de culte. Mais le sabbat, c'est le jour où il y a la meilleure nourriture. Ça, nous l'avons déjà remarqué. Le sabbat, c'est le jour où il y a les plus beaux vêtements. Le sabbat, c'est le jour où l'on rencontre ceux que l'on aime le mieux. Le sabbat, c'est le jour où il y a le meilleur temps. Le sabbat, c'est simple. The sabbat is the best. C'est ça le sabbat. Et c'est un commandement. The sabbath is the best. La 6e dimension du sabbat que je voulais souligner est en rapport avec un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 5. Dans l'Exode, nous est décrit dans les premiers chapitres de ce livre cet événement où Moïse va aller chercher le peuple qui est dans l'esclavage en Égypte et l'amener dans la terre promise. Dans des situations dramatiques pour l'Égypte d'ailleurs à cause des 10 plaies. Mais Pharaon va résister à cet appel de Moïse. « Laisse aller mon peuple. » Pharaon n'a pas envie de voir partir sa main-d'œuvre à bon marché. Mais Pharaon a très bien compris ce que Moïse demande de la part de Dieu. Il l'a peut-être mieux compris que nous. Et ça transparaît dans son discours. Regardez dans Exode chapitre 5, le verset 5. Moïse a encore demandé « Laisse aller mon peuple. » Et Moïse négocie et réfléchit. Et il dit, verset 5, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux ?» Le mot « interrompre » qui est là pourrait être traduit littéralement par, et je reprends la phrase, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez sabbatiser ses travaux ?» C'est le mot « sabbat » qui est employé là. Vous le feriez se reposer de ses travaux ? Pas du tout. Pas du tout dans l'esprit de Pharaon. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu veut faire. Sortir ce peuple de l'esclavage, c'est la délivrance du péché. Et la délivrance du péché, c'est sabbatiser de ses travaux, c'est le repos. Sortir de l'esclavage, en réalité, c'est changer de maître. Et le nouveau maître du peuple de Dieu, c'est un Dieu qui commence par lui donner le repos. C'est un maître qui lui propose de sabbatiser de ses œuvres et de recevoir sa grâce parce que ce ne sont pas ses travaux qui vont l'amener à être sauvé. Ainsi, Pharaon semblait avoir bien compris que la délivrance d'Égypte, c'était une délivrance du péché, pour rentrer dans le sabbat de la grâce de Dieu. Il y a donc, en réalité, ici le miracle de la création, le miracle de la délivrance. Le sabbat, c'est la délivrance. Le sabbat, c'est la délivrance des péchés. C'est la délivrance du péché. Le sabbat, c'est reproduire le miracle du début, où Dieu donne le repos et sauve son peuple du péché. Le prix a été payé. Le sang a été mis sur les portes. Le sang a été mis sur la croix. Maintenant, il nous donne le repos du sabbat. En fait, il n'existe dans la Bible qu'un seul miracle. Un seul et unique miracle, le miracle du début, le miracle de la création. C'est le seul miracle qu'il y a dans les Écritures. Pensez un instant aux Évangiles. La plupart des miracles que Jésus a accomplis, il les a accomplis un jour de sabbat. C'était la délivrance du péché, la délivrance de la maladie sous une forme ou sous une autre. Mais chacun de ces miracles que Jésus a accomplis un jour de sabbat était en fait ni plus ni moins qu'une recréation de ces personnes-là. Que ce soit par rapport au péché, que ce soit par rapport à la maladie, ou que ce soit même une résurrection, c'était en réalité ni plus ni moins qu'une création nouvelle. C'était toujours le même miracle. Le miracle que Jésus a fait dès le jour 1 de Genèse 1. Si bien que lorsque Jésus vient pour nous sauver, il veut reproduire en nous le même miracle, celui de la création renouvelée. C'est ainsi qu'est le salut. Le salut n'est autre chose que la recréation de chacun de nous à l'image de notre Sauveur. Ne nous avait-il pas créés à son image? La septième dimension du sabbat que j'aimerais voir avec vous, c'est le don du sabbat. Nous retrouvons cette expression dans les Écritures, « Je leur donnais mes sabbats. »« Je leur donnais mes sabbats. » Le sabbat, c'est un don que Dieu nous fait. Ne pensons pas ou arrêtons de penser que nous faisons une grâce particulière à Dieu lorsque nous observons le sabbat. Nous ne faisons pas de grâce à Dieu, nous ne donnons rien à Dieu. Donner à Dieu, c'est le propre du paganisme. Ce sont les païens qui donnent à Dieu pour calmer le Dieu, pour être bien vu du Dieu, pour avoir une bonne impression, faire une bonne impression auprès de Dieu. Le croyant de la Bible ne donne pas à Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui nous donne son temps. Dans le sabbat, Dieu nous donne son temps. En attendant de nous donner ce temps qui ne s'arrête plus, et en réalité, chaque sabbat est une préparation, non pas pour la fin des temps, mais pour le temps qui n'a pas de fin. C'est le sens du sabbat. C'est ce que Dieu nous donne. Nous ne donnons rien à Dieu, nous ne lui donnons pas du temps, c'est lui qui nous le donne. Et lorsque nous venons pour célébrer notre culte, ne croyons pas que nous faisons une grâce à Dieu de lui faire un culte. Nous ne faisons pas un culte à Dieu, c'est lui qui nous promet d'être au milieu de nous parce qu'il a lancé cette sainte convocation. C'est nous qui répondons. Et lorsque le sabbat matin, nous donnons notre dîme, ne pensons pas que nous avons donné notre dîme. Elle lui appartient déjà. Nous ne faisons en fait que de lui rendre notre dîme. Nous ne lui donnons rien. Mais quelqu'un va me dire, oui, mais nous apportons les offrandes. Nous n'apportons pas d'offrande à Dieu. Nous ne donnons aucune offrande à Dieu. Lorsque nous plaçons de l'argent dans le panier, que ce soit un cent ou un gros chèque, nous ne faisons même pas une offrande à Dieu. C'est Dieu qui donne aux autres par notre intermédiaire. Nous ne donnons rien à Dieu. D'ailleurs, qu'avons-nous à lui donner ? Le sabbat est destiné à nous apprendre à recevoir. Le sabbat, c'est Dieu qui donne et c'est l'homme qui reçoit. Ainsi, nous réalisons que finalement, on peut très bien observer le sabbat du septième jour, mais ne pas être un chrétien. Mais par contre, un vrai chrétien ne peut pas être un vrai chrétien sans observer le sabbat du septième jour. Quand on y pense, c'est vrai que le sabbat, c'est un jour spécial, particulier. Ce jour que Dieu nous a enseigné de garder. Mais au-delà du jour correct, du bon jour, il y a un monde énorme, le monde de ce Dieu qui se donne et qui vient. Et si l'on veut résumer en un mot, finalement, le sabbat, c'est Jésus lui-même. Le sabbat, c'est Jésus lui-même. Alors, aujourd'hui, la question se pose encore, qu'allons-nous faire de Jésus? Qu'allons-nous faire du sabbat? C'est Dieu qui se donne. Est-ce que nous allons le recevoir? Amen.